OK, on va commencer notre, je pense, c'est notre neuvième leçon dans notre série sur la sanctification pratique et l'assurance du chrétien. On avait regardé la semaine dernière la première partie, deux points. On va les réviser très, très, très rapidement pour terminer les deux derniers points qu'on n'avait pas vus. Alors, on avait regardé que la doctrine de l'assurance du salut, c'est une doctrine qui est vraie et vraiment profondément ancré dans les Écritures. On avait vu plusieurs versets à cet effet-là. On avait vu aussi que c'était possible qu'un croyant puisse avoir la foi qui sauve sans connaître l'assurance de son salut. Autrement dit, quelqu'un peut être sauvé, mais il arrive des occasions dans sa vie où il se pose des questions sur son propre salut pour toutes sortes de raisons. Alors, c'est un fait que les Écritures enseignent aussi. Mais les Écritures nous enseignent aussi qu'on peut obtenir cette assurance-là. On était rendu un petit peu là la semaine dernière. Donc, le troisième point dans cette série-là, c'est que l'assurance du salut se doit d'être désirée ardemment, comme on avait, c'était le dernier point qu'on avait examiné la semaine dernière. Alors, à cause du confort et de la paix profonde que cette doctrine-là peut apporter dans la vie du chrétien. Quelqu'un qui a l'assurance de son salut, il y a une sérénité qui s'installe dans son cœur, dans sa vie, qui est présente et qui est même perceptible, visible par les autres. Alors, les doutes et les peurs, bien sûr, ont le pouvoir de gâter le bonheur du véritable croyant. L'incertitude et le manque d'assurance face à son salut est une plaie spirituelle. Quand on a l'assurance, ça nous rend patients dans les tribulations. Puis les Écritures nous enseignent que tous les chrétiens vont connaître des tribulations. L'assurance nous rend calme dans nos pertes et dans nos deuils. Il peut y avoir toutes sortes de pertes, il peut y avoir toutes sortes de deuils. Ça peut être des emplois, ça peut être la santé, ça peut être... Et ça nous rend serein dans la souffrance. Même si la souffrance est... Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est serein dans la souffrance, qui a l'assurance de son salut, qui ne connaît pas la douleur, il va la connaître, mais il va rester serein là-dedans, sachant que Dieu est au contrôle. Tu sais, comme j'entendais tantôt quelqu'un qui parlait, oui, le Seigneur est au contrôle de nos circonstances, dans les moindres détails de nos vies. Et ça a tout pour but de modifier notre caractère, de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. L'assurance va aussi nous libérer de nos peurs dans les mauvaises nouvelles et nous donner le contentement dans toutes nos situations. À Québec, à Rouyn-Noranda, c'est une série que j'ai faite deux fois. Peut-être que je la ferai c'est éventuellement aussi sur le contentement. J'avais fait 6 sermons sur le contentement. Les Écritures donnent beaucoup de versets pour nous dire qu'on se devrait être content tout le temps. Puis quand on s'examine le moindrement sérieusement dans notre vie de tous les jours, on est toujours en train de chioler, on est toujours en train de ruer des brancards, on chiole à l'année, et ça, c'est pas quelque chose que les Écritures nous disent pas d'être comme ça. Soyez contents, il y a plein de versets sur ce sujet-là, et bien sûr, quand on a l'assurance de notre salut, ça aide beaucoup à vivre cela correctement, le contentement. Ça va adoucir aussi ce qu'on pourrait appeler nos coupes amères. Ça va amoindrir le fardeau de nos croix. On en a tous des croix, le Seigneur il nous l'a dit, et ça va aplanir les obstacles de nos vies. Et ça va illuminer ce que les Écritures appellent la vallée de l'ombre de la mort. L'assurance va nous aider à supporter les pertes et aussi la pauvreté. L'assurance rend un homme capable de louer le Seigneur même en prison. Il y a des versets que c'est vraiment spécial hein, quand on regarde la vie de Paul. Il se fait arrêter, il se fait sacrer dans un cachot. Et en ce temps-là, les cachots, c'était pas des chambres d'hôtel comme aujourd'hui, là. Du moins au Canada. Moi, je suis travaillé 4 ans de pénitencier, je sais comment ça marche. Alors, je sais comment ils sont installés, sont gâtés, là, autrement dit. Mais à cette époque-là, quand tu te faisais mettre en prison, c'était dans des conditions abominables. Il t'enchaînait après le mur avec les pieds, les mains. En plus, il avait été fouetté et il avait le dos plein de plaies Et la nuit, le geôlier, vous vous souvenez tous du passage du geôlier dans le livre des Actes, la nuit, Paul et son compagnon chantaient des louanges au Seigneur. C'est pas normal, ça, mes amis. Quand on a le dos plein de plaies, qu'on est en prison, c'est pas normal qu'on ait cette réaction-là. Voyez-vous, dans Actes 16, ça nous raconte ça un petit peu au verset 25, à partir du verset 23 jusqu'à 25. Et après leur avoir infligé plusieurs coups, ils les jetèrent en prison et ordonnèrent au geôlier de les garder sûrement. Ayant reçu cet ordre, celui-ci les jeta dans la prison intérieure et serra leurs pieds dans des entraves. Sur le minuit, Paul et Silas, étant en prière, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ça a été une des causes. Le Seigneur s'est servi de tout cela pour emmener le geôlier à la foi. Alors l'assurance sera un homme capable de dormir calmement la veille de son exécution. On prend le fameux passage d'Actes 12, verset 6, où Pierre était en prison, puis il savait que le lendemain, c'était la journée de son exécution, du moins supposée, planifiée. Et on lit dans Actes 12, verset 6, « Et la nuit d'avant le jour où Hérode devait l'envoyer au supplice, je vous garantis, si on se remet en prison ce soir, on saurait que demain, ils vont nous mettre au supplice à la méthode des Romains, pour sûr qu'on dormirait la nuit. D'envoyer au supplice, Pierre dormait en deux chaudes d'eau. Quelque part, ça aussi, c'est pas normal. Dormant lié de deux chaînes et des gardes devant la porte gardaient la prison. Alors, l'assurance rendra un homme capable de se réjouir, même lorsqu'il est maltraité. Acte 5, verset 41. « Eux donc se retirèrent de devant le Sanhédrin remplis de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir des opprobes pour le nom de Jésus. » L'assurance rendra aussi un homme capable de subir une mort violente et douloureuse sans peur. J'ai donné toute une série à Romain Noranda sur l'histoire de l'Église. Je pense que j'ai donné plus que 50 leçons pour être rendu à 80. Je me souviens plus du exact, mais c'était beaucoup. On a pris l'histoire de l'Église à partir du début, à partir du livre des Actes, là, tout ce qui se passait, là, et après ça, 1er siècle, 2e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Quand on lit l'histoire de l'Église, on se rend compte que c'est vrai que les chrétiens, au cours de l'histoire, ont été persécutés, comme le Seigneur le disait, que s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr, s'ils m'ont maltraité, ils vont vous maltraiter, etc. On peut le voir très, très clairement dans l'histoire de l'Église. Les Écritures utilisent le terme de martyr pour parler de cette vérité-là. Alors, on peut le regarder un, au moins. Acte 7, versets 59 et 60, on a l'exemple d'Étienne. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et ayant dit cela, il s'endormit. Or Saul avait consenti à sa mort. Le Seigneur lui-même nous avait dit aussi, « Et je vous dis à vous, mes amis, ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. » L'assurance nous rendra aussi capables de supporter la douleur et la maladie. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. « Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les lieux célestes un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. » Autre raison, à cause que l'assurance fait du chrétien un ouvrier actif dans le royaume de Dieu. Le croyant qui est rempli de doutes et de peurs aura peu de temps à donner au Seigneur. Psaume 51, versets 12 et 13. « Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. » Autre chose, autre raison pour laquelle on se doit de désirer ardemment l'assurance du salut, à cause qu'elle rendra le chrétien ferme et résolu. L'indécision et le doute affaiblit la marche du chrétien et le rend instable. L'assurance rend la voie du devoir du croyant claire et sûre. On voit par exemple dans 1 Roi, au chapitre 18, les versets 36 à 39. « Et au temps où on offre l'oblation, le prophète Élie s'approcha et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait toutes ces choses. Exauce-moi, Éternel, exauce-moi, et que ce peuple connaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste et le bois et les pierres et la poussière et absorba l'eau qui était dans le canal. Et tout le peuple, voyant cela, tomba sur son visage et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Voyez-vous, quand on a l'assurance que l'Éternel est présent, l'Éternel agit, là, le peuple qui était branlant, anti, s'il devait adorer Baal ou Dieu, quand il voit l'intervention de Dieu, qu'il avait mis de l'eau autour, si vous vous souvenez du passage, le feu a tout liché ça, ils se sont rendus compte que, ah là, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Alors, ça rend le chrétien ferme et résolu. Autre raison pour laquelle on se devrait de la désirer ardemment, c'est qu'elle tend à produire les plus sanctifiés des chrétiens. Je vais parler la semaine dernière du cardinal Bellarmine, qui était un cardinal catholique qui vivait à l'époque de J.C. Ryle. Lui, il ne pouvait pas être davantage dans l'erreur parce qu'il affirmait la phrase suivante. Il disait « L'assurance de son salut tend à rendre le chrétien paresseux et négligent. » Il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que la Bible, dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, nous dit « Et quiconque a cette espérance en lui, en parlant de Christ, se purifie de lui-même comme il est pur. » Alors ça ne le rend pas paresseux et négligent. Au contraire, ça dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Alors ceux qui maintiennent une proximité et une communion avec le Seigneur seront ceux qui maintiendront une garde soigneuse sur leur cœur et sur leur vie. Il y a un très grand réconfort pour ceux qui vivent en obéissance et en communion avec le Seigneur. Si vous lisez l'histoire de l'Église ou si vous lisez des biographies de grands chrétiens ou de grandes chrétiennes, vous allez voir qu'il y a toujours un élément présent, qui est présent dans toute la vie de ces gens-là. Et quel est cet élément-là? La proximité avec le Seigneur. Plus on est proche du Seigneur, plus on est fort dans quoi que ce soit qui arrive dans nos vies. Alors, est-ce qu'on réalise que le secret de nos échecs réside dans la négligence à poursuivre et à désirer l'assurance de notre salut? Recherchons un accroissement réel de notre foi. Développons une confiance dans les promesses de Dieu avec une foi enfantine. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. « C'est pour cela aussi que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé que par sa puissance, il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » On va regarder le quatrième point. Le quatrième point par rapport à ce qu'on vient d'étudier, c'est que il y a des causes probables concernant notre manque d'assurance et pourquoi l'assurance de notre salut est rarement atteinte. Alors, si on regarde l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble, composée de probablement de millions d'individus, comment ça se fait qu'il y a si peu de chrétiens qui ont cette assurance-là? Alors, ça dépend de quelque chose, parce que le Seigneur l'a mis à notre portée. Puis si on ne s'en sert pas, puis on ne l'a pas atteint, il y a des raisons à tout cela. Alors, c'est ce qu'on va regarder rapidement. Alors, très certainement, c'est une question qui est très sérieuse et ça devrait nous amener à examiner nos cœurs et nos vies. Une des raisons qui fait en sorte qu'on a des problèmes avec l'assurance de notre salut. C'est une vue défectueuse de la doctrine de la justification. Pourquoi on fait cette série-là sur la justice, la sanctification, et on va essayer de déblayer le chemin entre les deux, les choses sur lesquelles ça s'accorde, les choses sur lesquelles c'est différent. Et si on ne fait pas ça, il y a beaucoup de confusion dans la société chrétienne en général, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout sur la Terre. Si vous lisez le moindrement sur la sanctification et sur la justification, vous allez voir que ça revient continuellement sur le tapis par les commentateurs. Les gens ne savent pas comment faire la différence entre la justification et la sanctification, et c'est essentiel. Si tu ne comprends pas ça, c'est sûr qu'à quelque part, tu vas errer, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Je vous ai dit dimanche qu'on va commencer probablement au début de février une série sur la confession de foi, 1689. J'ai deux excellents outils à la maison. Et en parlant avec Raymond la semaine passée, il m'avait proposé deux autres bouquins qui expliquent encore plus. Alors j'en ai quatre. Alors là, on va prendre paragraphe par paragraphe. Il y en a, je pense qu'il y a 32 paragraphes, je ne me trompe pas, là, je me souviens bien. Là, on va regarder 32 paragraphes et je pense qu'on peut très, 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 très facilement faire au moins 100 leçons là-dessus. Parce que des fois, on s'imagine, ah, moi, je suis dans une église, on a adhéré à la confession de foi 1689, puis moi, je pourrais dire, OK, attends en avant, on va aller m'asseoir, on va te poser des questions. Là, je verrai si c'est vrai, si tu comprends ou si tu ne comprends pas. Puis, je pense qu'on serait surpris de voir jusqu'à quel point on la connaît peu. Mais souvent, on a une copie à maison, on ne l'a jamais lue, ça c'est souvent le cas, ou quand on l'a lue, on a rencontré des difficultés où on n'a pas compris tout ce qui est écrit, alors on la remet dans le tiroir et ça reste là. C'est pas de même qu'on grandit. Une confession de foi, ça le dit, c'est les choses scripturaires auxquelles on s'est engagé comme groupe, et comme groupe depuis 1689. Donc, les baptistes, calvinistes, depuis 1689, depuis qu'ils ont mis ça, cette affaire-là. Et avant, il y avait la confession de foi des presbytériens, 1646, Westminster Confession of Faith. Alors, c'est pas d'hier. Et ça s'est transmis au cours des siècles, dans les différents, soit chez les baptistes, et soit chez les presbytériens. Alors, il y a des différences entre les deux confessions de foi, mais quand on va arriver là, on va expliquer les différences. Ça, c'est une chose importante. Aujourd'hui aussi, on voit les dénominations, puis on ne comprend pas toujours pourquoi on ne croit pas les mêmes choses et sur quoi qu'ils se basent pour dire ci, quoi qu'ils se basent pour dire ça. On va regarder ça. Je ne pense pas qu'on aurait le temps ce soir de regarder le chapitre 11. Et je vous le dis, chapitre 11, il y a 5 paragraphes sur la justification. Et c'est écrit par des théologiens qui se sont assis, qui ont pris le temps de tout peser leurs mots, de structurer leurs phrases, que ça soit intelligent, pour que ça soit biblique aussi. Et ils l'ont fait pour la justification. Ils l'ont fait sur la sanctification aussi. Donc, le chapitre 11 de notre confession de foi est sur la justification. Moi, je l'avais tout écrit ici, mais je veux pas, parce que je n'ai pas le temps de le faire ce soir. Mais je vous invite quand même à prendre votre confession de foi. Et allez voir le chapitre 11 et le chapitre 13, un qui parle de la justification, l'autre qui parle de la sanctification. Et en lisant ça, c'est pas toujours évident qu'on comprend tout ce qu'il dit. Parce que c'est pas des petites phrases de Romain l'eau de rose, ça c'est des choses, on parle des choses de Dieu, on parle du salut, on parle des choses importantes de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Alors on peut pas prendre ça à la légère. Alors, la chose que je voulais qu'on regarde, c'est pourquoi, une des raisons pourquoi on atteint peu et on désire si peu l'assurance de notre salut, c'est souvent une des causes, c'est une mauvaise compréhension de la doctrine de la justification. Autre, on devrait, quand je vous parlais des chapitres 11, chapitre 13, on se devrait de maîtriser. Quand on parle de maîtriser quelque chose, là, quand on maîtrise une doctrine, ça voudrait dire que tu n'auras même pas peur que je te dise « OK, Puis il va te poser des questions devant tout le monde, puis tu vas me répondre. Si tu sais les réponses, ça ne t'énervera pas. Mais on les connaît-tu tant que ça, les réponses? Alors, si on ne connaît pas les réponses, ça fait en sorte qu'on ne sait pas c'est quoi la justification. Puis on ne sait pas c'est quoi la sanctification. Fait quand on ne sait pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on confond les deux. Et ça nous emmène dans toutes sortes d'erreurs théologiques et de comportements aussi. On en reparlera. Une autre des raisons, alors la première, c'est la confusion dans la doctrine de sanctification et justification. La deuxième, c'est quelque chose qu'on connaît tous bien, la négligence et la paresse. On est-tu paresseux un petit peu sur les bords? J'avoue que on l'est tous. Moi, je ne suis pas une exception. Je ne veux pas dire vous autres, Dieu est paresseux, puis moi, je suis un vaillant. Non, on est tous portés à ça. Et des fois, il faut se faire violence un petit peu pour qu'on avance. Sinon, on ne fait pas d'efforts et on ne fait pas d'études pour approfondir notre sujet et on reste toujours au même niveau. Et ça l'amène... Dites-vous une chose, quand on comprend le lien qu'il y a entre la doctrine et la vie de tous les jours, la vie normale, notre marche chrétienne, quand on comprend le lien qu'il y a entre les deux, le lien, c'est un lien très étroit, très fort, très serré, très tissé, serré. Plus vous allez connaître votre doctrine, bien sûr, c'est pas juste une connaissance intellectuelle. J'ai reçu les commentaires aujourd'hui, puis j'en avais commandé un autre pour moi. Puis l'autre, ça disait la phrase suivante, j'ai dit, c'est tellement beau, on devrait mettre ça sur le mur. Ça disait... lire la parole de Dieu, c'est bien. La comprendre, c'est mieux. Mais la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, c'est le meilleur. J'ai trouvé ça tellement beau. On devrait mettre ça en gros sur le mur. La lire, c'est sûr, on peut la lire. Mais si tu ne comprends pas, là, un des outils pour t'aider à comprendre les Écritures, c'est peut-être justement les confessions de foi, les commentaires, ces choses-là. Et la mettre en pratique dans la vie de tous les jours, bien sûr. Si tu le sais, tu le lis, puis tu le sais, tu comprends ce que ça veut dire, puis que tu n'agis pas dans le sens de l'obéissance, bien c'est sûr que tu n'iras pas loin. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça tellement beau. C'était court, mais ça disait tout. Alors, la paresse et la négligence. Alors, il dit, le pasteur Rell disait, « Je suspecte beaucoup de croyants sont assis sur leur laurier. » Et ont des compréhensions et des pratiques non scripturaires dans cette doctrine de la croissance dans la grâce. Les Saintes Écritures abondent en commandement de croître, d'abonder de plus en plus, d'aimer de plus en plus, d'obéir de plus en plus et d'ajouter constamment à notre foi. J'aime beaucoup ce passage-là, 2 Pierre 1, verset 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Ainsi, y apportant tout votre zèle... Des fois, on lit les Écritures, mais on ne pèse pas nos mots. Quand vous lisez attentivement, ça dit « y apportant tout votre zèle ». Tu sais, des fois, on dit « quelqu'un, il est zélé ». Quelqu'un qui est zélé, c'est comme « on dirait qu'il n'est pas arrêtable hein? ». Mais c'est ça que le Seigneur nous dit qu'on se devrait être. Il dit « y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété. Et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. » Écoutez bien ce qu'il dit. « Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne se trouvent point est aveugle, sa vue est courte, et il a oublié la purification de ses péchés passés. » Verset 10, « C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, il ne le dit pas, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu le fais, tu broncheras pas, mais si tu le fais pas, tu vas broncher. Et verset 11 dit, « Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Alors, on a un autre verset dans le Proverbe, chapitre 13, verset 4. « L'âme du paresseux ne fait que souhaiter. Il n'a rien. Mais l'âme des diligents sera rassasiée. » Alors, quelque part, on ne peut pas devenir bon en théologie si on ne fait pas un certain travail, un certain effort d'avancer dans ce domaine-là. Les puritains, je ne sais pas si vous connaissez les puritains, vous avez déjà lu les puritains. Moi, personnellement, chaque fois que je lis un puritain, je suis toujours renversé, béni. Et je les admire dans le sens de leur connaissance extrêmement approfondie des Écritures. Quand tu lis un puritain sur quelque sujet que ce soit, là, t'en reviens pas, là, je vous le dis. Là. Alors, lui, les puritains avaient l'habitude de dire « La foi vient en entendant alors que l'assurance vient en faisant. » Oui, oui. L'un, ça vient par les oreilles, l'autre, ça vient par l'action. La troisième raison pour laquelle on n'avance pas dans l'assurance du salut, c'est une marche chrétienne et une vie quotidienne inconsistante. Alors l'inconsistance, qui est une faiblesse ou un manque de fermeté, détruit la paix de la conscience. Une marche vacillante, un manque de détermination à suivre une ligne directrice biblique et le chemin étroit et resserré, une conduite mondaine. Ça, je pourrais en parler des heures, des heures, des heures. La mondanité s'est beaucoup introduite dans les églises et c'est une des causes de la faiblesse des chrétiens modernes. Alors, un manque d'affirmation dans l'évangélisation, je l'ai vu et revu et re-revu. Une négligence de suivre des hauts standards de vie spirituelle et de sanctification n'amèneront que des gâchis dans le jardin de l'âme. Psaume 119, verset 128, « C'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements et je hais toute voie de mensonge. » Psaume 25, verset 14, j'aime tellement ce verset-là, que j'en fais presque une maladie. « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fera connaître son alliance. » Dans l'hébreu, le texte « Le secret de l'Éternel », c'est les communications intimes. On a-tu une idée de ce que ça peut être une communication intime entre Dieu dans sa grandeur infinie qui entre en communion avec une créature vile et pécheresse comme nous? Pourtant, les Écritures nous disent que Dieu va s'approcher de toi et va t'accorder des communications intimes, mais si tu le crains, et la crainte de Dieu, ça aussi, c'est un autre sujet, on pourrait en parler longtemps, il dit il leur fera connaître son alliance. Plein d'autres versets, mais en tout cas, on va regarder 1 Jean 3, versets 18 et 19. « Mes petits-enfants, n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. Car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurerons nos cœurs devant lui. » 1 Jean 2, verset 3. « Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. » Acte 24, verset 16. « C'est pourquoi je travaille à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Si un chrétien aspire à l'assurance de son salut, qu'il examine son cœur, sa conscience et sa vie de tous les jours, ses voies et la marche de son foyer, bien sûr, il va se produire des choses dans sa vie, s'il le fait sérieusement, s'il le fait à genoux, par la prière, en implorant la grâce de Dieu. Alors, je vois trois applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui, très rapides. Premièrement, l'assurance de son salut est un grand privilège et apporte une grande paix de l'âme. Poursuivons-la authentiquement et constamment, car elle est précieuse. Deuxièmement, implorons le Seigneur de nous sonder avec force et pour nous stimuler à chercher et à poursuivre sérieusement l'assurance de notre salut. Des fois, je marquais dans mes sermons, examinons-nous nous-mêmes. À un moment donné, j'ai comme, non. On a tendance à être très... on est bon pour nous-mêmes, autrement dit. Mais quand on demande au Seigneur de nous sonder, oh là, c'est autre chose, parce que lui, il sait aller voir des tirs à coins. Nous autres, on a tendance à passer rapidement sur ce qui ne fait pas notre affaire, mais lui, il va dans le fond. Alors, implorons le Seigneur de nous sonder avec force. Troisièmement, étudions davantage cette doctrine. Elle est profondément scripturaire et elle est hautement désirable. N'hésitons pas à identifier et à éliminer de nos vies les causes de sa faiblesse ou de son absence dans nos vies. Demandons des grâces correctives. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni pour son don ineffable, la personne de Jésus-Christ. Amen.